Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Joseph Winkler qui vient de publier aux éditions Verdier l'Ukrainienne, un récit traduit par Bernard Banoun. Bonjour Joseph, merci d'être avec nous aujourd'hui et bonjour et merci à Sabine Turek qui va assurer la traduction de cet entretien, l'interprétariat de cet entretien. Dans l'Ukrainienne, vous nous racontez, Joseph, à travers ses mots à elle, avec ses mots à elle, l'histoire d'une femme que vous avez rencontrée en 1981 alors que vous écriviez votre roman Langue maternelle, votre troisième roman. Vous aviez besoin d'être au calme pour écrire, de quitter Vienne, de vous isoler. Et vous avez donc loué une chambre dans sa ferme, une ferme de montagne autrichienne à Mooswald, en Carinthie. Carinthie qui constitue le décor principal de la plupart de vos livres. On va y revenir. Et donc au fil des jours, cette femme, Nietoshka Vassilievna Ilyashenko, vous a raconté sa vie, son enfance en Ukraine, sa déportation jusqu'en Carinthie en 1943, dans un wagon à bestiaux. Elle avait alors 14 ans à peine. Il est difficile de ne pas penser aujourd'hui, parlant d'un livre qui a pour titre l'Ukrainienne, il est difficile de ne pas penser à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, Joseph. Bien évidemment, nous allons parler de votre récit, de ce livre très fort, poignant. Mais j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous disiez comment vous regardez les événements en cours, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup. Merci de me poser la question. J'avoue, évidemment, face à ce qui se passe en Ukraine, je ne suis pas un expert pour pouvoir me permettre d'évaluer la situation, mais il faut dire que c'est quand même un événement effroyable et personne n'aurait cru qu'en 2022, ceci pourrait se passer en Europe.
Et on aura très certainement, on a besoin de témoignages, de récits des événements pour ne jamais oublier, pour savoir ce qui se passe précisément. Et c'est là où on rejoint ce récit, l'Ukrainienne. On ressent à la lecture de votre livre le besoin profond de cette femme de témoigner. C'est une histoire, son histoire, que personne chez elle ne veut écouter. Son mari, écrivez-vous, a honte d'être marié à une Russe. On ressent vraiment que votre présence déclenche quelque chose, mais quelque chose qui est très profondément déjà présent, cette envie de raconter ce qui lui est arrivé.
Ja, es war ein reiner Zufall, dass ich dort auf diesen Kärntner Bergbauernhof hingekommen bin. Ich wollte nicht mehr in Wien, in der Großstadt leben und schreiben. Ich wollte mich zurückziehen aufs Land. Und die Gegend war mir dort bekannt. Und da bin ich dann einfach von Haus zu Haus gegangen und habe gefragt, ob ich mich dort einmieten, also eine Vollpension sozusagen. Und es war niemand bereit. Nur diese gebürtige Russin hat gemeint, sie hat Platz.
Oui, en fait, cette histoire et le livre est le fruit de l'hasard, il faut dire. Je me suis trouvée dans cette ferme à la montagne, dans la région de Carinthie, en Autriche, parce que à Vienne, dans la capitale, je ne trouvais pas le calme pour écrire mon livre. Donc, je connaissais la région, je me suis rendue et donc je suis passée d'une maison à l'autre pour savoir si on allait me loger, pension complète. Et en fait, toutes les portes restaient fermées et la seule femme qui m'a accueillie, c'était en fait elle, cette Russe, disons, cette femme d'origine russe.
Dann hat sie mich, als ich hingekommen bin, in das Zimmer geführt, in dem Zimmer einquartiert, in dem auch sie damals als 14-jähriges Mädchen einquartiert worden ist. Es war ein Zimmer, da gibt es einen speziellen Dialektausdruck, das hat man genannt, also die Menscherkammer. In dieser Kammer, in diesem Zimmer, haben immer die Mägde geschlafen. Und wenn früher zu den Mägden, wenn man früher zu den Mägden, hat man nicht Magd gesagt, sondern Menscher, also das Mensch. Also es war fast ein, es war abwertend, ein Schimpfwort eigentlich. Und dort habe ich meine schwarze, keilförmige Olivetti-Schreibmaschine hingestellt und habe damit begonnen, meinen dritten Roman fertig zu schreiben.
En fait, elle m'a amenée à ce moment-là dans une chambre. Et cette chambre était exactement la chambre dans laquelle elle a été logée quand elle était arrivée à l'époque en Carinthie, quand elle avait 14 ans. En fait, cette chambre avait un surnom en dialecte autrichien. C'était la Menschakammer. Donc chambre, ça veut dire Kammer. Et Mensch, en fait, ça devait... En fait, désigner les servantes, les filles qui travaillaient à la ferme, mais on disait en fait das Mensch. En fait, ce terme n'existe pas. On dit der Mensch, c'est l'homme, en fait, l'être humain. Et là, c'était en fait une expression pour désigner quelqu'un d'une manière un peu, disons, négatif et sans considération et respect. Voilà. Donc, je me suis installée dans cette chambre. Et j'ai sorti ma machine à écrire noire, Olivetti, pour commencer à travailler.
Und abends, ich habe den ganzen Tag gearbeitet oder ich habe auch gelesen. Ich habe damals also einen großen Roman von deutschen Dichter, der nicht so bekannt ist, Hans Henny Jahn, den Roman Fluss ohne Ufer gelesen, 2000 Seiten. Und abends, habe geschrieben während des Tages und abends bin ich dann immer in die Bauernküche gegangen, habe mein Abendbrot, meine Jause gekriegt, der Bauer ist schon besoffen auf dem Divan gelegen, der Fernseher ist gelaufen, sie hat das Geschirr gemacht, abgewaschen und dann hat sie mir im Laufe von über einem halben Jahr ihre Kindheit und Jugend und die Verschleppung erzählt, vor allem auch von ihrer Mutter, die Geschichte ihrer Mutter, die ja sehr dominant und sehr stark in diesem Buch ist.
Oui, en fait, donc je travaillais dans cette pièce, je travaillais sur mon livre et je lisais en même temps de la littérature. J'avais pris un roman d'un auteur pas très connu, Hans Henning Jahn, qui s'appelle La Rivière sans berge, un roman de 2000 pages que je lisais pendant la journée. Et ensuite, le soir, je me suis rendue dans la cuisine de cette ferme dans laquelle se trouvait cette femme. En fait, le paysan, l'agriculteur était déjà allongé sur le canapé, complètement ivre, et regardait la télé. Donc, elle me faisait à manger et me racontait pendant les 6 mois pendant lesquels je me trouvais à cet endroit ce qui s'est passé pendant son enfance, sa jeunesse, la déportation, donc ce rap, et l'histoire de sa mère qui est une personnalité extrêmement importante, centrale et très forte dans son livre.
Und so ist es dann Abend für Abend dahin gegangen. Nach der Arbeit bin ich wieder in die Bauernküche gekommen. Sie hat mir wieder, immer wieder ihre Geschichte erzählt. Und verschiedene einzelne Geschichten hat sie mir im Laufe von über einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr, oft 5 oder 10 Mal erzählt. Ich hatte ja von dieser Zeit, von diesem Kommunismus in der Ukraine, ich hatte ja keine Ahnung, aber... Indem sie mir über einen langen Zeitraum die Geschichten immer wieder erzählt hat, habe ich erkennen können, also, dass sie nicht fantasiert, dass es keine Fantasiegeschichten sind. Weil sonst, auf diese Art und Weise kann man das ja überprüfen dann. Wenn sie eine Geschichte 3 Monate später noch genauso erzählt, also wie vorher. Und
Oui, donc soir parfois, tous les soirs, je me trouvais dans cette cuisine. Et il y a différentes histoires, différentes anecdotes, différentes narrations qui revenaient à chaque fois pendant ces 6 mois, 9 mois. Parfois, elle me racontait ces histoires 5 à 10 fois. Toujours les mêmes. Moi qui connaissais pas du tout l'histoire du communisme en Ukraine, donc j'ai vraiment appris énormément de choses. Et comme elle me racontait toujours les mêmes histoires de la même manière, j'ai compris qu'en fait que c'était pas un fruit de son imagination, parce que quelqu'un qui répète toujours la même chose, il raconte forcément la vérité.
Dann habe ich dort eben meinen Roman Muttersprache, der ja auch also bei Verdier erschienen ist, schon lange fertig geschrieben.
Donc, Donc j'ai terminé mon roman qui s'appelle en allemand Muttersprache, je ne sais pas, le titre est peut-être le même en français, Langue maternelle, qui a été également édité par Verdier.
Und dann ist das Frühjahr gekommen, sie ist so 50 Meter vom Haus weg in den Garten gegangen, hat dort Gartenarbeit gemacht und während der Gartenarbeit habe ich ein Tonband gehalten.
Voilà. Et ensuite, quand le printemps est arrivé, elle se mettait à travailler dans le jardin. Et pendant qu'elle travaillait dans le jardin, j'ai en fait organisé un magnétophone qui m'a permis de l'enregistrer ce qu'elle disait.
Dann waren wir weit weg vom Bauer. Der hat sich ja geschämt, mit einer Russin verheiratet zu sein. Er wollte von diesen Geschichten nichts hören und wissen. Sie hätte mir das nicht, wir hätten die Tonbandaufnahme nicht im Haus machen können. Und er war entweder besoffen oder am Feld. Und so haben wir diese Geschichte dann bei der Gartenarbeit im Frühjahr entwickelt.
Voilà, donc comme on était dans le jardin, loin de la maison et loin du mari, le paysan qui avait honte d'être marié avec une Russe, et il voulait rien entendre de ces histoires, dans le jardin, donc à l'abri, on pouvait enregistrer ce qu'elle me racontait avec cette magnétophone. Le mari donc n'était pas là, il était ou bien dans les champs, où il avait déjà picolé.
Und dann bin ich, hatte ich die ganzen Tonbandaufnahmen. Ich bin dann weggegangen von ihrem Haus und zu meinem elterlichen Bauernhof zurückgekehrt. Dort habe ich das Ganze abgetippt, ebenfalls auf der keilförmigen schwarzen Olivetti, die erste elektronische Schreibmaschine.
Voilà, ensuite j'ai pris en fait tout ce matériel, toutes ces bandes que j'avais enregistrées. Je me suis rendue à la ferme de mes parents qui se trouvait non loin de là pour taper tout ce qu'elle m'avait raconté grâce à cette machine iconique noire d'Olivetti, la première qui était électrique.
Und dann hatte ich ein Manuskript. Dann bin ich wieder 14 Tage oder 3 Wochen zu ihr auf den Bauernhof hinauf und habe ihr alles vorgelesen. Und dann hat sie gesagt, das stimmt nicht, das ist ein Irrtum, diese Geschichte ist in einem anderen Zusammenhang und so weiter. Oder es ist ihr zu der einen Geschichte, die ich schon auf Papier hatte, ein Detail dazu eingefallen und so weiter und so fort. Und dadurch, und dann bin ich wieder runter zu meinem elterlichen Bauernhof und dann habe ich sozusagen das ganze Manuskript vollendet.
Et au bout de 3 semaines, je me suis rendue, je suis montée en fait dans cette ferme qui se trouvait en haut de la montagne pour lire mon manuscrit. Donc elle m'a permis de corriger certaines inexactitudes ou quelques histoires qui ne correspondaient pas à ce qu'elle avait raconté. Il fallait donc rajouter quelque chose ou changer certains passages. Et ensuite, je suis redescendue à la ferme de mes parents pour finir mon manuscrit.
Und mit dieser Neufassung, durch die Ergänzungen, das Neuschreiben, bin ich dann wieder zu ihr auf dem Bauernhof und habe ihr alles vorgelesen und dann hatten wir ein Problem.
Voilà, donc j'ai recorrigé le texte, j'ai remis tout en propre, je me suis à nouveau rendue à sa ferme en haut de la montagne et voilà, on avait un nouveau texte et on s'est aperçu qu'on avait un problème.
Eigentlich ein sehr schönes Problem. Ich habe sie gefragt, willst du jetzt, dass wir das Manuskript veröffentlichen, dass wir ein Buch draus machen? Und sie hat dann gesagt, ja, das möchte ich, es ist die Wahrheit.
Voilà, en fait, c'était un problème, mais qui n'en était pas un. J'ai, en fait, je lui ai posé la question, est-ce que tu es prête à vouloir publier cette histoire? Est-ce que tu souhaites que ton histoire soit, en fait, éditée en tant que livre? Et elle m'a dit, oui, je le souhaite, parce que c'est la vérité.
Et puis, j'ai le Surkamp Verlag, donc, à Frankfurt, geschickt, et puis, un halbes Jahr später, habe ich ihr unter den Christbaum zu Weihnachten das Buch legen können.
Donc j'ai envoyé ce manuscrit à la maison d'édition Surkamp à Francfort en Allemagne et donc six mois après j'ai pu lui mettre le cadeau de Noël sous le sapin en forme de livre.
Et ce livre qui sera un soulagement, en tout cas elle voit tout de suite l'importance de le publier, d'avoir cette mémoire fixée et en même temps il y a aussi une souffrance qui est liée à la publication de ce livre, une souffrance liée à la réception par les voisins, par les personnes qu'elle connaît qui découvrent son histoire.
Ja, sie wollte eigentlich, also irgendein Journalist hat geschrieben, dass ich da kein Buch geschrieben habe, sondern eine Ikone erschaffen habe.
En fait, un journaliste avait écrit que je n'avais pas écrit un livre, mais que j'avais créé une icône.
Sie wollte nicht im Zentrum stehen, sie wollte, dass es die Geschichte ihrer Mutter ist.
En fait, elle ne voulait pas du tout être au centre de ce livre. Elle voulait en fait écrire l'histoire de sa mère.
Ich glaube, das war speziell ihre Antriebskraft, damit, als wir uns entschlossen haben, dieses Manuskript als Buch erscheinen zu lassen.
Ça, c'était en fait sa motivation lorsque nous avons pris la décision de publier ce manuscrit et d'en faire un livre.
Und jetzt existiert dieses Buch, also diese Ikone oder wie immer man das nennen möchte oder so, seit 40 Jahren. Et donc, das ist nicht verloren gegangen, nicht vergessen. Es ist eine kleine Geschichte, aber wahrscheinlich doch etwas Besonderes.
Voilà, maintenant ce livre ou cette icône, comme on veut l'appeler, existe bel et bien et depuis des décennies. Voilà, c'est une petite histoire, mais c'est quelque chose dont on doit se souvenir, qu'on ne va pas oublier, et cette histoire n'est pas perdue. C'est une petite histoire, mais quelque chose d'important.
Und dann hat also die Frankfurter Allgemeine noch unter den Literaturkritiker, den berühmten, man hat ihn ja den Literaturpapst genannt, den Deutschen, Marcel Reich-Ranicki, in der Frankfurter Allgemeinen daraus einen Fortsetzungsroman gemacht und auch eine Kärntner Provinzzeitung.
Et ensuite la FAZ, donc c'est un grand journal de Francfort, Frankfurter Allgemeine Zeitung, pour laquelle travaillait en fait on l'appelait le pape de la littérature. C'était un grand critique de la littérature après-guerre en Allemagne qui s'appelait Marcel Reich-Ranicki et qui a fait en sorte que cette histoire a été publiée par épisode dans ce journal et d'ailleurs aussi un journal en Carinthie l'a également publié de cette manière.
Und, da diese Geschichte als Fortsetzungsroman zwei Monate in der Kärntner Provinzzeitung abgedruckt worden ist, ist ihre Geschichte auch auf den Bauernhöfen ringsum angekommen, gelandet. Und die Bauern sind eifersüchtig geworden.
Alors, comme le journal qui s'appelait en fait le journal provincial de Carinthie a publié cette histoire par épisode, en fait, les voisins ont appris cette histoire et ceci a créé beaucoup de jalousie parmi les paysans.
Und es sind dann auch, es war das ausländische Fernsehen an ihrem Hof und ein österreichisches Fernsehen. Die Bauern haben das gesehen und sind, wie gesagt, dann eifersüchtig geworden. Und ja, das eine Mal.
Donc il y avait même des équipes de télévision autrichienne et de l'étranger qui sont venues la voir à la ferme. Et les paysans du village ont été très jaloux de cela.
Und das Buch schildert ja die Vergangenheit ihrer Mutter, die Kindheit von ihr, von der Nietotschka Iljaschenko, und dann die Verschleppung. Und es wird ja auch das erste Jahr geschildert, wie dieses 14-jährige verschleppte Mädchen aus der Ukraine auf dem Bauernhof, auf dem Bergbauernhof behandelt wird. Und ja.
Voilà, en fait, c'est l'histoire, comme j'avais déjà dit, de sa mère. Et elle raconte son enfance, sa jeunesse et également donc la jeunesse de Nietotchka Iljaschenko et sa déportation. Et elle raconte également la première année qu'elle a passée en fait en Autriche sur cette ferme ou dans cette ferme et l'accueil qui lui a été réservé, comment elle a été traitée.
Und ihre Geschichte in Russland, ihre Kindheit und Jugend, die ganzen Grausamkeiten der Kolchose und so weiter, das war diesen Kärntner Bauern egal. Aber sie haben natürlich empfindlich darauf reagiert, weil sie auch Geschichten erzählt hat, wie die damals 14-jährige auch nicht gut behandelt worden ist. Und das war das Problem für die Bauern. Nicht also die Ukraine, sondern eben.
Voilà, donc en fait, l'histoire qu'elle raconte sur la Russie, c'est terrible, des atrocités qu'elle a vécues par les kolchoses et ces abominables choses. À la limite, les paysans du village, ça les laissait indifférents. Par contre, ils n'étaient pas du tout contents d'apprendre qu'elle n'a pas forcément eu le meilleur des traitements quand elle est arrivée en Autriche.
Es gibt ja die Geschichte drinnen, wo ein einarmiger SSler mit einer Peitsche hinter dem Pflug hergeht und das 14-jährige, der Pflug ist an Ochsen angespannt und das 14-jährige Mädchen muss die Ochsen führen und der Pflug war verstellt, blockiert und der SSler, der Einarmige, hat dann die Peitsche gegen das 14-jährige ukrainische Mädchen erhoben. Und das steht auch drinnen und das war der eigentliche Skandal im Dorf in Kärnten.
Voilà, donc en fait, elle raconte l'histoire où elle, la petite de 14 ans, a dû travailler dans les champs avec une charrue qui était sur laquelle étaient attelés des bœufs. Et donc, elle travaillait dans les champs, labourait le champ avec un SS qui n'avait qu'un bras, qui se trouvait derrière elle pour surveiller le travail et qui avait un fouet. Et quand, à un moment donné, cette charrue a été bloquée dans le champ, il a levé le fouet contre elle et ça a vraiment été le scandale provoqué par ce récit dans ce village.
Et je le disais, au tout début, on ressent réellement la nécessité de raconter. Et vous le disiez, il y a des anecdotes qu'elle a racontées 5, 6, 7, 8 fois. Et à un moment, elle vous dit, je vous lis, Si seulement je pouvais l'écrire, tout ça, je me disais toujours, mais en Russie, je ne suis allée à l'école que pendant 5 ans, 4 ans de petite école, et puis nous avons été amenés. Et puis tu es arrivé, toi. Et avec ton aide, je peux dire ce que j'ai à communiquer à ce monde. Ce que je veux, disait-elle souvent, c'est montrer que même quand on est dans une situation désespérée, on doit mobiliser ce qui reste de force et d'espoir pour que ça continue quand même. Sans ça, je n'aurais pas survécu. Elle raconte, quand elle arrive dans la ferme, effectivement, qu'elle racontait à la personne qui sera plus tard sa belle-mère, qu'elle va être capoute, qu'elle ne survivra pas. Et finalement, elle vous dit, plus de 30 ans plus tard, pas capoute, toujours pas. Il y a vraiment une force dans ce récit, la précision des souvenirs, et on se dit que si tous ces souvenirs sont si vivants, c'est parce qu'elle avait gardé en elle cette nécessité d'un jour le raconter. Et ce qui est fou, c'est que vous le dites, elle nous raconte beaucoup l'histoire de sa mère, et même ces moments qu'elle n'a pas vécu, la vie de sa mère avant qu'elle naisse, les souvenirs, là aussi, sont précis. Il y a vraiment cette idée de la transmission au sens très très fort, à la fois de sa mère à elle-même, puis elle à vous, et grâce à vous, à nous tous.
Also ich habe noch nie in meinem Leben, wie man so sagt, so einen einfachen Menschen, ist mir noch kein so einfacher Mensch begegnet, der, wie sie ja gesagt hat, in der Ukraine nur 5 Jahre in der Dorfvolksschule war, die aber so genau beobachtet hat und ich glaube, viele Menschen können genau beobachten. Thomas Bernhard hat einmal gesagt, alle Menschen beobachten. Aber sie hatte so ihre Beobachtungen und ihre Erinnerungen, die Erinnerungen ihrer Mutter, ihre eigene Kindheit, mit einem derartigen Detailgefühl erzählt, sodass es mir möglich war, dann ein ganzes Buch und nicht vielleicht eine kleine Erzählung draus zu machen.
Oui, en fait, je dois dire, jamais dans ma vie, j'ai rencontré une personne aussi simple. Elle n'avait eu que 5 ans d'école, dans une petite école à la campagne, mais elle avait un don d'observation. Et bon, Thomas Bernhard a dit un jour, en fait, tous les êtres humains ont ce don d'observation, ils peuvent observer, mais elle pouvait observer et elle pouvait décrire ses souvenirs, celles de sa mère et ses propres, avec beaucoup de détails, ce qui m'a permis d'écrire pas simplement une petite histoire ou un petit livret, mais un vrai livre.
Als sie mir diese Geschichte immer wieder erzählt hat, besonders dann, wenn sie besonders gerne und genau erzählt hat, habe ich mich öfter geschämt und ich habe mir gedacht, die kann doch besser erzählen als ich. Ich bin nur derjenige, der sozusagen der Techniker, der mit seinen routinierten Mitteln das aufzeichnet.
Oui, en fait, lorsqu'elle racontait parfois à plusieurs reprises ses histoires avec énormément de détails, parfois j'avais honte, je me suis dit, elle raconte les histoires en fait beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un technicien qui a une certaine routine qui enregistre ce qu'elle me dit.
Also mit 14 Jahren ist sie verschleppt worden mit ihrer 19-jährigen Schwester gemeinsam. Ein Monat lang hat es gedauert von Kiew weg bis in den Süden von Österreich nach Villach im Viehwaggon. Und dann sind sie ausgestiegen aus dem Viehwaggon. Da waren schon die Bauern da und haben sich die Verschleppten für die Arbeit ausgesucht.
Voilà, donc elle n'avait que 14 ans quand elle a été déportée avec sa sœur âgée de 19 ans à l'époque. Et donc ils ont passé un mois dans un wagon à bestiaux pour passer de Kiev à Villach, donc c'est un village en Carinthie, en Autriche du Sud. Et donc, dans quand ils sont sortis de ce wagon à bestiaux, les paysans étaient déjà à la gare pour trier ces jeunes personnes qui sont arrivées pour les amener à leur ferme afin qu'ils y travaillent.
Vom feuchten Fenster haben sie das Wasser abgeleckt.
Ils étaient obligés de lécher l'humidité qui ruisselait sur les fenêtres.
Als sie dann 26 Jahre alt war, hat sie den Bauern auf demselben Hof geheiratet. Sie sind ja sozusagen als Kinder oder Jugendliche gemeinsam aufgewachsen.
En fait, quand elle a atteint l'âge de 26 ans, elle a épousé le fils des paysans de la ferme où elle a été accueillie, où elle a travaillé. Donc ces deux jeunes se connaissaient en fait parce qu'ils ont passé une partie de leur adolescence ensemble.
Sie hatte dann vier Kinder bekommen.
Ils ont eu quatre enfants ensemble.
War wunderbar integriert, also davon war wunderbar integriert, war sehr gesellschaftsfähig und gesellschaftstüchtig. Sie hatte Witz, sie hatte Humor, sie konnte erzählen, sie konnte Wein trinken, alles Mögliche.
Donc en fait, elle a eu, ou ils ont eu ensemble quatre enfants. C'était une femme qui s'est bien intégrée. Elle était très sociale, très sociable. Elle avait beaucoup d'humour. Elle racontait avec aisance. Et elle avait beaucoup d'humour et elle était drôle.
Und jetzt kommt das nächste Drama.
Et ensuite, un autre drame s'est produit.
Dann ist ihre Geschichte aufbewahrt, aufgehoben worden als Buch, die Geschichte ihrer Mutter und ihre eigene Geschichte.
En fait, son histoire, sa propre histoire et celle de sa mère ont été en fait décrits dans ce livre. Ils ont été ainsi conservés dans ce livre.
Es war zwei Monate in der Provinzzeitung. Die Bauern sind eifersüchtig und dann böse und hässlich zu ihr geworden.
Et donc, quand le journal provincial a publié cette histoire en plusieurs épisodes, ensuite tout le monde s'est détourné d'elle et ces paysans qui ont été jaloux de ce succès sont devenus méchants et désagréables avec elle.
Und ein paar Monate später, ich war ja schon so teilweise auf meinem elterlichen Bauernhof weit weg oder in Rom. Einige Monate später habe ich sie besucht.
Donc en fait, quelques mois plus tard, où j'étais à la ferme de mes parents, ou bien plus loin, ou à Rome, donc je suis retournée la voir.
Und mir ist nur aufgefallen, dass sie, wie man so sagt, sehr schlecht, fast krankhaft ausgeschaut hat. Und ich habe dann gefragt, was ist denn, was ist denn los?
Donc, elle avait très mauvaise mine. J'avais l'impression qu'elle était malade. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe?
Sie hatte ja so eine Freude mit dem Buch, also besonders also was die Geschichte ihrer Mutter betrifft.
Ce livre lui a fait tellement de joie, tellement de plaisir, surtout parce que ceci concernait l'histoire de sa mère.
Sie hatte ihre ukrainische Mutter nie mehr in ihrem Leben gesehen.
Elle n'avait jamais revu sa maman qui était en Ukraine.
Und dann, weil dieses Buch dann, weil es eben erschienen, weil es vor allem in der Zeitung war, in der Lokalzeitung, ne?
Et comme l'histoire a été racontée dans ce journal local,
hat sie kaum mehr jemand besucht, während früher immer Leute aus und eingegangen sind. Und sie hat auch in kein anderes Haus mehr gehen können, weil sie hat gespürt, dass sie nicht mehr willkommen ist.
Donc après cela, plus personne n'est allé la voir. Elle n'avait plus de visite, elle n'avait plus d'échange. Elle-même avait l'impression qu'elle n'était pas la bienvenue et elle n'a pas été invitée ailleurs.
Und wie gesagt, ich habe sie besucht und ich habe gesehen, also dass es ihr nicht gut geht. Habe sie gefragt, was ist denn los? Und sie hat gesagt, wörtlich.
Donc je suis allée la voir, j'ai dit voilà, tu as mauvaise mine, qu'est-ce qu'il se passe? Et elle m'a répondu:
Jetzt lebe ich in einem Leichentuch, jetzt bin ich wieder die Russin.
J'ai l'impression de vivre comme dans un, disons, comme dans un lin qui entoure les morts. Je suis redevenue russe.
Vous parlez de la jalousie des voisins. Ça me ramène au personnage de la mère, Apka Davidovna Ilyashenko, puisque c'est aussi quelque chose qui caractérise sa vie. Vous le racontez, sa mère qui a un temps habité chez un comte avant de revenir auprès de sa famille. Sa mère qu'on traitait de sorcière. C'est une sorcière, cette femme récolte plus que nous. Il y avait beaucoup de jalousie autour de sa mère, autour de son père qui après la Première Guerre mondiale a perdu une jambe et reçu une balle dans la tête pendant la Première Guerre mondiale, et qui malgré tout, ce couple réussissait à avoir beaucoup de lait, à avoir beaucoup de, à réussir à très bien cultiver. Et il y avait cette jalousie autour d'eux, le fait que comment est-ce qu'il était possible qu'un éclopé et une femme réussissent à produire autant. Ce mot jalousie que vous avez employé à l'instant pour parler de l'ukrainienne, on peut aussi l'appliquer, ou en tout cas ça fait également penser à sa mère.
Ja, das Seltsame ist, das hat sich dann wiederholt, also im Leben ihrer Tochter auch. Ihre Mutter war eine sehr starke Frau. Sie hat dort in der Ukraine, die haben ja am Ufer des Flusses, des Dnieper, gelebt. Sie war alleine mit ihren beiden Töchtern. Es war die Zeit der Kolchose, es war die Zeit also der Hungersnot, wo also Eltern ihre Kinder auch aufgegessen haben. Und ihre Mutter hat sich durchgekämpft durch den Wald, durch die Felder, durch den Fluss und hat das Essen besorgt. Und ja, und diesen Mut, ja, diese Kraft hat offenbar dann die Tochter, die Erzählerin dieser Geschichte, mit nach Kärnten gebracht.
Oui. Oui, en fait, c'est étrange. En fait, on a l'impression que certaines choses de la vie de la mère se répètent dans la vie de la fille. C'était une mère forte qui vivait en Ukraine, au bord du Dnieper. Elle, à un moment donné, était seule avec ses filles. Donc, il y avait la colchose, il y avait la famine. Mais malgré tout, elle avait une résilience. Elle, c'était une battante. Elle cherchait la nourriture dans la forêt, dans les champs, dans la rivière. Elle avait ce courage, cette force dont la fille a hérité et qu'elle a emmenée avec elle en Carinthie.
Es gibt ja diese Geschichte auch, wo die ältere Schwester ein paar Wochen weggeschickt wird in die Umgebung der Dörfer, um zu betteln.
En fait, elle raconte son enfance que la sœur, qui était un peu plus âgée, a été envoyée quand ils étaient petites dans les différents villages pour faire la manche, pour mendier.
Und das hat sie dann wie als ein Wunder dargestellt, als ein Wunder erzählt. Ausgerechnet am Weihnachtstag, es hat geschneit, hat es an der Tür geklopft und die über und über beschneite Schwester ist mit einem Rucksack voll, mit einem Sack voll Birischki vor der Tür gestanden. Und so haben sie die Weihnachten überstanden.
Voilà, et donc elle raconte que c'était pratiquement un miracle. Le jour de Noël, la sœur rentre, elle était couverte de neige, elle portait un sac à dos rempli de perishki, donc pour pouvoir fêter Noël.
Oui, effectivement, la sœur qui était partie mendier, qui n'avait plus réapparu, et donc la mère et la fille imaginaient le pire, et effectivement l'arrivée à Noël couverte de neige. Et il y a ce souvenir qui... quand on pense à tout ce qu'elle a vécu, qui est très difficile, paraît presque anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Elle raconte la souffrance qui a été la sienne quand un jour elle a cherché à elle aussi aller mendier faire comme sa sœur parce qu'elle voulait aider sa mère. Elle voulait qu'elle aussi, pouvoir ramener quelque chose à la maison. Et elle raconte la souffrance que ça a été de revenir les mains vides. Ça dit, je trouve, beaucoup de ce qui peut nous marquer enfants et de comment est-ce que ces souffrances très fortes peuvent s'imprimer de manière très puissante en nous.
Dieses Detail, also wo dann die Mutter, also die Habka Davidovna Ilyaschenko, mit einem Hackbeil zum Fluss hinuntergeht und das Eis aufhackt und wartet, bis sich ein Fisch nähert. Und ja.
Oui, elle raconte tout ça avec beaucoup de détails. Par exemple, sa mère Arpa Davidova Ilyashenko, à un moment donné, elle a pris une sorte de hache. Elle s'est rendue sur la rivière qui était gelée. Elle a en fait ouvert une brèche pour aller pêcher des poissons à la main nue.
Also besser kann man mit so Kleinigkeiten, Details. Als Schriftsteller dann letzten Endes, als jemand, der das aufzeichnet, ich habe mich nicht als Schriftsteller gefühlt, als jemand, der das aufzeichnet, also besser kann man das nicht sozusagen bekommen, kriegen vor jemanden. Das ist wie wenn wirklich jemand, der schreiben kann, so ins Detail geht. Sie hat es nur nicht können, aber sie war irgendwo auch dann jemand, ja,
voilà, donc elle a raconté toute cette histoire avec énormément de détails. Je n'ai pas eu l'impression d'être en auteur parce qu'en fait, j'ai enregistré ce qu'elle a raconté. C'était si bien présenté comme sur un tableau que pour quelqu'un qui ne savait pas écrire, qu'il fallait juste restituer cela de la sorte.
Und um das noch also zu Ende zu führen, irgendwann haben sich die Bauern im Kärntner Dorf wieder beruhigt. Das heißt ja bei uns, da ist dann Gras drüber gewachsen und dann war es irgendwie vorbei. Das Buch ist ja nicht herumgereicht worden und dann hatte sie wieder ihre Ruhe. Also sie ist nicht sozusagen dann zwei Jahrzehnte später in einem Leichentuch gestorben. Es hat sich wieder beruhigt, die ganze Situation.
Voilà, en fait, pour finir cette histoire, à un moment donné, évidemment, ces paysans de Carinthie se sont calmés, on a oublié un peu ces émotions qui ont provoqué ce livre, et comme le livre n'a pas circulé, il y avait juste ces articles dans la presse. Elle a retrouvé la paix et elle n'a pas été enterrée vive, comme elle disait, couverte d'un tissu, d'un drap pour les morts.
Und das Buch ist ja so aufgebaut, also in den ersten 50 Seiten schildere ich, wie ich dort wohne, wie es mir geht mit ihr, wie sie mir erzählt und so weiter. Und der zweite, der große Teil, der ist dann in Ich-Form geschrieben. Und da erzählt sie ihre Geschichte in einer für meine Verhältnisse eher einfacheren Form. Ich habe bei ihrer Geschichte, wollte ich nicht, also meine... wie soll ich sagen, zu literarischer Form kommen, zu schön gebauten Sätzen und so weiter, wie sie der Bernhard macht oder Handke und so weiter, sondern ich wollte es einfach sozusagen von ihr erzählen lassen. Also mir war aus Respekt vor ihrer Geschichte, vor dieser Frau, die Authentizität der Sprache auch wichtig.
Oui, en fait, sur les premières 50 pages, je décris dans ce livre comment je vis dans cette maison, comment elle raconte son histoire. Et ensuite, dans la partie importante, après ces 50 pages, je change en fait de style et de perspective et je la laisse parler elle en utilisant donc le jeu quand elle parle d'elle-même. Donc le style à ce moment-là correspond à son propre style, donc plus simple. Je ne voulais pas imposer ma signature littéraire avec une syntaxe et un style très littéraire comme Bernard ou Handke, par respect concernant son histoire et par respect par rapport à elle-même. Donc je voulais qu'elle garde ce langage authentique.
Und in der französischen Ausgabe sind auch die aus dem Ukrainischen übersetzten Briefe von der Mutter an ihre Tochter veröffentlicht. In der deutschen Ausgabe, die vor 40 Jahren erschienen ist, sind sie nicht drinnen.
Il faut que je rajoute que dans la version française, se trouvent également des lettres que la mère a adressées à sa fille en ukrainien, traduit en français. Dans la version, donc dans l'original allemand, publiée il y a 40 ans, ces lettres ne figurent pas.
Und jetzt erscheint auch eine neue Ausgabe von der deutschen Ausgabe. Die wird der französischen angepasst.
Donc, on va éditer bientôt encore une nouvelle version allemande qui sera à ce moment-là adaptée à la française.
Es gibt ein neues Vorwort von mir dazu und es werden ebenfalls in der neuen deutschen Ausgabe, in der Neuauflage nach 40 Jahren, werden auch die Briefe von ihrer Mutter veröffentlicht.
Donc, moi, j'ai préfacé mon livre français. Il y aura également une nouvelle préface dans le livre allemand qui sera enrichie par les lettres ukrainiennes de la mère à la fille.
Vous le disiez, dans la première partie, vous mêlez les paroles de Nietoshka Vassilievna Ilyashenko à votre voix en nous racontant ces moments d'échange, comment est-ce que tout ceci s'est mis en place. Et dans la deuxième partie, vous le disiez également, ce n'est que sa voix qu'on entend quand on lit le livre. Il y a des digressions. On peut lire, par exemple, c'est une anecdote qui me passe maintenant par la tête. Il y a parfois des « je te raconterai ça plus tard ». C'est ce que vous disiez un petit peu déjà à propos de l'écriture même de ce récit, mais c'est important pour vous de conserver le cheminement de pensée également de Nietoshka, c'est-à-dire que dans les moments où certains passages lui évoquaient des passages plus anciens, où il y a des allers-retours dans le temps, c'était important de garder vraiment le témoignage dans son entièreté, j'ai envie de dire, comme si finalement le lecteur, on avait été aussi l'oreille attentive de son récit.
Ja, ich wollte eben nicht, dass es mein Buch wird, oder sagen wir so, ich wollte dadurch auch, dass es nicht mein Buch allein wird, sondern dass es auch ihr Buch wird. Das war mir wichtig.
Donc pour moi, il était très important que ce livre ne soit pas mon livre, mais que c'était aussi son livre à elle.
Et il y a quelque chose, on disait qu'elle ne savait pas écrire et que finalement vous étiez là et heureusement. Mais si elle ne savait pas lire, en revanche, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est si bien racontée avec force détail, c'est qu'elle lisait. En tout cas, elle partage avec vous des contes dont elle se souvient. Elle se souvient de contes qu'elle lisait dans son enfance, qu'elle se racontait avec sa sœur. Peut-être que sa façon de vous parler de son enfance est aussi quelque part nourrie de ce goût pour les histoires qu'elle semble avoir depuis toute petite.
Ja, es gibt einen berühmten, also ukrainischen Volksdichter. Taras Schewtschenko heißt er. Den hat sie gelesen. Vor dem hat sie die Gedichte gelesen.
Oui, en fait, il y a un poète populaire très connu en Ukraine, Taras Shevchenko, dont elle a lu les poèmes et s'est inspirée.
Ich konnte dann, damals hat es noch die alte DDR gegeben, da habe ich in der DDR, in der alten, in einem dicken Band die Gedichte von Taras Shevchenko gefunden.
Et à l'époque, lorsque la RDA existait encore, j'ai trouvé un tome très ancien de ses poèmes de Taras Shevchenko.
Und ich war dann auch einmal in der Ukraine, in Kiew, und da sind Teile von meinem Requiem für eine Mutter entstanden. Mutter und der Bleistift ist, glaube ich, auch auf Französisch. Und da habe ich also dann in zyrillischer Schrift von diesem Dichter die Gedichte mitnehmen können.
Voilà, donc je me suis rendue à Kiev, en Ukraine, et là j'ai en fait écrit une partie de mon livre Requiem pour une mère. La mère et le crayon, c'est peut-être ça le titre en français. Et donc là, j'ai également trouvé donc, de ces textes en cyrillique.
Und von diesem Dichter Taras Shevchenko gibt es in Kiew ein Museum, und weil wir jetzt wieder zum Anfang zurückkehren, wer weiß, wie lange noch.
Donc, à Kiev, il s'y trouve en fait un musée dédié à Taras Shevchenko, à ce poète. Et là, on retourne au début de notre histoire. Et on se dit, pour combien de temps encore ?
Le temps passe trop vite, mais un mot, vous le disiez, quand vous êtes entré dans la chambre, dans cette ferme, vous pouviez voir la vallée, là où vous aviez, vous, grandi, ces lieux qui sont aussi le décor de vos récits. Ce qu'on comprend aussi en creux, vous le racontez un peu, mais de manière très, 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 très délicate, puisque ce n'est pas le sujet de ce livre, puisque vous voulez vraiment laisser la parole à Nietochka. Mais ce que vous racontez en creux également, c'est que ce séjour dans cette ferme vous a changé, vous aussi. Vous décrivez en train, justement, une fois que vous avez terminé le manuscrit de votre roman, le moment où vous sortez et où d'un seul coup, à nouveau, vous êtes à l'extérieur. Et vous nous dites, encore une fois, sans vous appesantir du tout là-dessus, vous nous dites à quel point, finalement, cette rencontre vous a changé, vous aussi.
Ja, ich habe, vielleicht war ich vom Literaturbetrieb durch Literaturpreise etwas verwöhnt, ein klein bisschen eitel, ein klein bisschen wehleidig. Und dann habe ich diese kämpferische Frau kennengelernt und da habe ich irgendwie gespürt, dass ich von ihr viel mehr lernen kann, als jedenfalls meinetwegen von Kollegen, die damals auch so gelebt haben wie ich.
Oui, j'étais assez gâtée dans ma vie, j'ai eu beaucoup de prix de littérature, j'étais un peu vaniteux et un peu douillée. Et quand j'ai rencontré cette femme, cette battante avec son vécu, je me suis dit, là, je peux apprendre beaucoup plus que par rapport à mes collègues qui mènent la même vie que moi.
Sie haben früher von der schönen Landschaft geredet, also Sie haben gemeint, von der schönen Landschaft in Kärnten. Ich war dort auf einem Bergbauernhof bei der Russin und habe weit ins Tal hinunter geschaut, auf mein Heimatdorf, auf mein Elternhaus.
Oui, vous avez parlé du paysage à travers de la fenêtre. J'ai pu avoir une vue panoramique sur toute la vallée jusqu'au village dans lequel j'ai grandi. J'ai vu où se trouve aussi ma maison, la maison de mes parents.
Das Reizwort, deshalb spreche ich davon, war für mich schöne Landschaft. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Landschaftshasser, ich weiß es nicht genau.
Mais la parole ou le mot qui m'a irritée un peu, c'est joli paysage. Je ne sais pas, c'est peut-être en moi, mais je n'aime pas beaucoup les paysages.
Meine Bücher werden in 18 Sprachen übersetzt und jedes Mal fast, wenn ein Buch in irgendeinem anderen Land erscheint, also wird man eingeladen, dorthin zu kommen.
Alors, mes livres ont été traduits en 18 langues et à chaque parution, on m'invite pour parler de mes livres.
Und Verdier hat ja 10 oder 11 Bücher von mir veröffentlicht. Ich war schon im Norden von Frankreich, im Süden. Ich war in Italien, in Spanien, in Litauen, in Rumänien und dort eben, wo... Und ich habe dort überall Landschaften gesehen. Und ich kann nicht verstehen, warum die Leute immer sagen, dort oder da ist eine schöne Landschaft. Also in der Provence ist es so schön oder in Italien, also in der, wie heißt es, in der... Toskana ist es so schön und dann bei uns in Kärnten ist es so schön. Ich habe das irgendwie nie verstanden. Ich habe da keinen Zugang. Ich habe mich immer nur gefragt, also sagen wir so, ich habe fast nur schöne Landschaften gesehen. Überall habe ich fast nur schöne Landschaften gesehen und das hat mich nie berührt. Ich habe mich immer nur gefragt, ja, wie leben denn die Menschen in dieser sogenannten schönen Landschaft? Was tun sie? Wie geht es ihnen? Das war mein Maßstab. Das andere hat mich überhaupt nicht interessiert.
Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen. Also, je voulais dire que, en fait, Verdier a publié mes livres. Donc, j'ai visité le Nord, j'ai visité le Sud de la France. Je suis allée en Italie, en Espagne, en Lituanie, en Roumanie. Et partout, j'ai vu des paysages magnifiques. Et j'entends les gens dire, voilà, ce paysage est magnifique. Et là-bas, c'est impressionnant. En Provence, en Italie, en Toscane, partout où je me suis rendue. Mais... je n'ai pas compris pourquoi cet engouement pour les paysages. En fait, j'ai vu partout des paysages magnifiques, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est comment vivent les gens dans ces jolis paysages, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont, c'est ça ce qui m'intéresse.
Wenn dann jemand einmal sagt und irgendetwas sieht, also das ist so eine schöne Landschaft, dann falle ich meistens in Ohnmacht, weil ich es gar nicht sehen will.
Et lorsque quelqu'un me dit, il faut absolument voir ça, c'est un paysage absolument magnifique, je suis sur le point de m'évanouir, j'ai même pas envie d'y aller.
Eine Fahrt über 6 Stunden hat mich einmal besonders beeindruckt, nämlich durch eine Wüste im Iran. Da habe ich mir jede kleine Oase vom Omnibus aus angeschaut beim Vorbeifahren. Das hat mich irgendwie tief beeindruckt und das war... War das eine schöne Landschaft? War es keine schöne Landschaft? Also ich kann das Wort keine schöne nicht verwenden dafür, kann schöne nicht sagen. C'est etwas ganz anderes, was ich...
Voilà, une fois, j'ai passé 6 heures dans un bus en traversant, en fait, un désert en Iran. Et ce voyage et ces paysages m'ont impressionné. J'ai vu les oasis et ceci m'a vraiment intriguée. Par contre, est-ce que c'est un paysage qui est joli, est-ce qu'il n'est pas joli? Cette qualification ne m'intéresse pas.
Ich möchte gerne am Meer irgendwo leben, ob in einer Stadt oder auch im ländlichen Gebiet, aber ich möchte nicht in der Toskana leben und ich möchte auch nicht in der Provence leben. Mich interessiert das Landleben nicht mehr. Also ich meine, um dort zu leben. Die Menschen, ihre Geschichten interessieren mich schon, aber ich könnte dort nicht leben.
En fait, je dois dire, j'aimerais vivre à la limite à la mer, au bord de la mer, dans une ville ou à la campagne, mais j'aimerais pas vivre ni en Toscane, ni en Provence, juste pour être dans un joli décor. Ce qui m'intéresse, ce sont juste les personnes qui habitent quelque part.
Ich möchte auch nicht in Kärnten leben, obwohl ich immer noch dort bin.
Et j'aimerais pas vivre non plus en Carinthie, même si j'y suis encore.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Joseph Winkler. Et donc, ce livre, L'Ukrainienne, publié chez Verdier, que je vous recommande à toutes et tous très chaleureusement, un livre extrêmement puissant, un récit poignant dont on vous a donné seulement un tout petit aperçu ce soir, mais j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-même. Et il y a d'ailleurs tout de suite, après cette rencontre, une séance de dédicace à la sortie de la salle. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne soirée.
Et si vous voulez bien rester avec nous, à 17h, il y a une autre rencontre en petite salle autour de journalisme littéraire avec trois auteurs extrêmement intéressants. Donc, on vous y invite.